Vous ne le savez peut-être pas, mais dans moins de deux mois, le 6 mai 2024, les Tchadiens devront choisir leur président de la République. J'enregistre cet épisode le 13 mars. Cette élection présidentielle doit marquer la fin d'un long processus de transition qui est né de la disparition d'Idriss Déby. Nous étions le 20 avril 2021. Le maréchal dirigeait le pays d'une main de fer depuis 30 ans et il venait, tout juste avant son décès, d'obtenir un sixième mandat. Depuis, c'est son fils, le général Mahamat Idriss Déby Itno, porté par l'armée, qui dirige le pays. Il avait initialement acté une transition de 18 mois et il assurait qu'il ne serait pas candidat. Mais depuis, tout a changé, ou presque. Et je m'apprête à en discuter dans cet épisode avec François Mazé. Il est journaliste au service Afrique de RFI. Il rentre tout juste de N'Djamena, la capitale, et être au bon endroit au bon moment, eh bien c'est ce qui vient de se passer pour lui. Avant d'entendre François me raconter tout cela, un petit rappel pour ceux qui en ont besoin. La République du Tchad, c'est environ 18 millions d'habitants sur un peu plus d'1 200 000 km². Cela représente à peu près deux fois la taille d'une île comme Madagascar. C'est un pays sans accès à la mer, avec pour voisins au nord la Libye, le Cameroun et la République centrafricaine, la RCA au sud. À l'ouest, nous avons le Niger et le Nigeria, et à l'est, le Soudan. Des pays dont il accueille beaucoup de réfugiés. Et dans le contexte, cela a son importance. Le Tchad est aussi un acteur clé de la lutte contre le djihadisme au Sahel, et il observe chez ses voisins des putschs et des conflits civils. Bonjour François.
Bonjour Alexandra et bonjour à tous.
Je viens de dire être au bon endroit au bon moment. Alors l'adage va être valable tout au long de tes 12 jours passés à N'Djamena parce que d'une simple mission de reportage pour faire le point sur cette transition qui s'achevait, tu vas te retrouver au cœur de l'actu tchadienne et ça commence le 27 février, c'est ça ?
Oui, effectivement, au début, je ne devais pas partir pour faire de l'actu chaude, comme on dit, c'est-à-dire pas couvrir des événements qui arrivent jour après jour. Je devais faire des reportages sur la société, l'économie, un sujet un peu plus long sur le bilan de la transition. C'est un grand reportage qu'on pourra quand même retrouver sur RFI, mais néanmoins, voilà, je devais avoir un peu de temps pour me poser, observer, discuter avec les gens. On avait bien compris qu'on aurait le calendrier des élections au moment où j'y serais, mais en fait tout s'est accéléré alors même que j'étais dans l'avion. Au moment d'embarquer, j'apprends que les journalistes sur place ont été conviés par l'ANJ, l'autorité électorale, pour dévoiler justement ce calendrier électoral. Et dans l'avion, bah, maintenant, on a accès aux messageries et donc j'ai reçu le calendrier en même temps et donc cette date du 6 mai qui arrive. Alors, au début, on se disait la transition, elle va aller jusqu'au bout. La deadline, c'est octobre 2024. Ces dernières semaines, on avait compris qu'ils allaient essayer de faire ça avant la saison des pluies, c'est-à-dire au plus tard fin mai. On se disait que ça serait sûrement à ce moment-là, mais le 6 mai, c'est beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. Donc déjà, ça a été la première surprise. Ensuite, j'arrive paisiblement à N'Djamena le 27 au soir. Je prends mes pénates à l'hôtel. Et puis là, on commence à voir passer des messages, notamment émanant de la page Facebook de l'opposant Yaya Diallo, qui accuse les autorités d'avoir assassiné un des cadres de son parti. Bon, c'était un peu tard, donc on n'a pas trop le temps de travailler dessus, mais déjà, on se dit, le lendemain matin, il va se passer des choses.
On va en reparler un peu plus tard.
On va en reparler. Arrive la nuit, je dors paisiblement, on m'appelle. « Ah, François, tu sais, il y a des tirs à N'Djamena, etc. » Donc, effectivement, réveillé en pleine nuit, pas possible de se rendormir. Et puis, bah, on essaye d'envoyer les premiers messages pour confirmer tout ça. Et donc, les jours qui ont suivi, je mets de côté tout mon programme pour me concentrer sur la tâche immédiate, quoi.
Alors, on va reparler de tout ça dans le détail. On reprend un petit peu les choses dans l'ordre. Initialement, pour évoquer cette transition, elle ne devait durer que 18 mois. Là, on est en 2021, donc on a largement dépassé la date initiale. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Alors, pour rappel, donc au moment où Idriss Déby meurt, un comité militaire prend le pouvoir, mené par son fils, en dehors des clous constitutionnels. Et donc, il y a deux promesses, c'est transition de 18 mois, à la fin, on rend le pouvoir aux civils. Donc, on comprend que le fils Déby s'engage à ne pas chercher à rester au pouvoir.
Ce qui nous amenait en octobre 2022.
Exactement. Alors, après se passent deux choses. Il y a un premier dialogue qui a lieu au Qatar avec tous les groupes rebelles, politico-militaires, etc. Ça dure plusieurs mois. Ça commence à repousser la transition. Il y a un accord qui est scellé, puis est organisé à N'Djamena ce qu'on appelle le DENIS, Dialogue National Inclusif et Souverain, qui là aussi va durer trois bons mois à partir de la fin août de 2022 jusqu'en octobre, donc avec des politico-militaires, des opposants, etc. On part sur deux ans de transition supplémentaire. Le comité militaire de transition est dissous, mais Mahamat Idriss Déby demeure chef de l'État. Et puis, il y a un gouvernement civil qui est mis en place à l'issue de cela. Mais ils estimaient que pour organiser les élections, il fallait remettre en place une constitution, remettre en place des institutions. Et que pour ça, il fallait deux ans de plus. Donc, ce qui nous amène à
octobre
2024, exactement.
Et finalement, ce sera donc, ça a été avancé, ce sera donc le 6 mai.
Voilà, finalement, alors qu'on pensait qu'ils iraient au bout du bout de la transition, parce qu'organiser des élections, ça prend quand même un certain temps, ça a été avancé, la constitution, elle a été adoptée au mois de décembre, et puis dans la foulée, il y a eu une accélération avec la mise en place de l'autorité des élections, avec le rétablissement du Conseil constitutionnel. Donc il y a eu une marche forcée vers les élections, qui frustre pas mal de gens qui s'interrogent sur la probité de ce processus qu'on promettait libre et transparent.
Et dans ce que tu vas vivre durant ces 12 jours à N'Djamena, il y a la candidature officielle de Mahamat Idriss Déby pour cette élection. Ça, c'était pas prévu.
Alors, c'était pas prévu, mais comme tout a été accéléré, il y a eu une accélération aussi du dépôt de candidature. Alors, on le voyait venir, parce qu'au fur et à mesure des mois, il y a des jalons qui ont été posés, qui laissaient entendre que, sans aucun doute, il serait candidat à cette élection. Au mois de janvier, le MPS, le parti qui était celui de son père, mais dont il n'était pas membre, il le nomme président d'honneur et le déclare candidat, alors que lui ne s'était pas déclaré. Donc, on savait que ça allait venir. La question, c'était quand. Et il y a effectivement cette intronisation qui est faite de Mahamat Idriss Déby, donc président qui va être candidat, et de son premier ministre, ancien opposant qu'il a rallié, qui lui, une semaine après, se déclare candidat à son tour. Donc on est dans une situation avec Succès Masra qui n'est pas banale, quoi.
Bon, il y a cette date de la présidentielle, cette candidature, et puis tu le disais tout à l'heure, ce deuxième événement fort que tu vis, quoi, deux jours après, même pas,
le lendemain de ton arrivée,
c'est la mort de Yaya Dillo.
Alors, rappelez déjà peut-être qui est Yaya Dillo. Yaya Dillo, c'est un opposant assez farouche au régime Déby père puis fils, d'autant plus farouche qu'il est le cousin de la famille Déby. Ils sont de la même communauté, la communauté Zagawa, qui est une toute petite communauté au sein du Tchad, mais qui a une place prépondérante dans l'appareil sécuritaire. Et donc Yaya Dillo, il a une place importante, parce que beaucoup de ses parents, au sens large, ont des postes de responsabilité, y compris dans les meilleures unités de l'armée. Donc c'est pas un opposant lambda, quoi. Et donc, au fil des semaines, il y avait eu une montée de tension graduelle entre lui et les autorités, jusqu'à cette histoire que je racontais. En fait, un des cadres de son parti a été emmené blessé le mardi soir. Lui dit qu'il a été assassiné. Dans la nuit, il y a un attroupement devant les renseignements. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Le gouvernement dit ils ont ouvert le feu. Il y a des versions contradictoires sur le sujet. Toujours est-il que le mercredi matin, après une nuit déjà un petit peu agitée, je me retrouve à faire le tour du siège du PSF, qui est complètement verrouillé. Très fort déploiement militaire. On comprend qu'il va y avoir de l'action. Ça se confirme au fil de la journée, où j'entends que des gens qui travaillent dans le centre-ville, pas très loin, sont priés de rentrer chez eux, etc. Je fais mon direct dans Afrique Midi, où je parle un petit peu de la situation, de cette tension et des gens qui se regardent un peu en chien de faïence. Je finis mon direct, je pars pour un rendez-vous, et là, je m'assois dans le bar pour prendre un jus, et j'entends que ça tire. Et voilà, et ça va durer trois quarts d'heure à peu près, grosso modo, de tir quand même assez intense. Et au moment où je ressors de ce bar où il y a une accalmie, là, je vois que le centre s'est absolument complètement vidé, quoi.
Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Je disais être au bon endroit au bon moment. Est-ce que c'est ça la réflexion? Tu dis, c'est cool, je suis dans l'actu, je vais pouvoir raconter tout ça à l'antenne, ou il y a eu une peur? Comment ça se passe?
Je parlerai pas de peur, mais je me pose beaucoup de questions, quoi. Surtout sur les conséquences que ça a, étant donné que Yaya Diallo n'est pas n'importe qui, qu'il est membre de
autres.
La famille, voilà. Forcément, tout le monde se demande quelles conséquences ça va avoir. Et tout le monde se perd un petit peu en conjecture là-dessus. Est-ce que l'assaut, il a été organisé en s'assurant au préalable qu'il n'y aurait pas de répercussions trop importantes? Ou est-ce que ça s'est décidé comme ça et est-ce qu'il y a un risque que ça embrase un petit peu la situation? Voilà, à ce moment-là, c'est ce que tout le monde se demande. Et comme l'exercice du pouvoir au Tchad, c'est un petit peu opaque, bah, les Tchadiens eux-mêmes se posent les mêmes questions.
Cette mort, elle va changer dans les jours qui suivent l'ambiance dans la capitale?
Ah bah, c'est un coup de bambou pour les opposants. Tout le monde est là en se disant qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que il faut prendre ça comme un coup de semonce en vue des élections? Voilà, une incitation à pas poser de problème.
Voilà, en termes sécuritaires également?
Alors, en termes sécuritaires, à N'Djamena, il y a toujours beaucoup de militaires partout dans les rues. Mais là, c'est vrai qu'il y a des fouilles qui ont été conduites dans certains quartiers, dans certaines maisons. Au rond-point, le soir, il y avait des fouilles systématiques de véhicules. De ce que j'ai vu, c'était pas agressif, mais c'était les ordres. Donc, ils cherchaient des choses, ils cherchaient à s'assurer, semble-t-il, qu'il n'y ait pas de conséquences inattendues au déroulement de ces événements.
Ça veut dire que même toi, quand tu sors dans la rue le soir pour aller dîner, par exemple, tu es susceptible d'être fouillé?
Oui, tout à fait. Oui, on te fait descendre de ta voiture, on te fait ouvrir le coffre, on regarde la boîte à gants. Si certains sont un peu zélés, il te faut ouvrir ton sac, etc. Voilà, il y a une vraie attention sécuritaire à ce moment-là, quoi.
Donc il y a toute cette ambiance politique, on comprend que c'est pas franchement évident. Et puis l'ambiance sociale et économique, parce que toi tu es arrivé en pleine grève aussi contre la hausse des prix du carburant.
Voilà, alors la situation sociale et économique, elle est un petit peu difficile. Il y a effectivement eu une décision d'augmenter les prix des carburants jusqu'à 40% le litre d'essence. C'est très important. Le gouvernement explique que bah, pendant des années, il n'y a pas eu de hausse, que chez les voisins, c'est plus fort, donc ça crée de la contrebande, qu'il faut un rattrapage, etc. Évidemment, du point de vue du consommateur, ça passe pas. En plus, les hausses de salaire ne suivent pas non plus, donc ça crée quand même pas mal de mécontentement, beaucoup de craintes sur les prix des transports, sur les prix des denrées alimentaires, il y a le ramadan qui arrive, enfin voilà. Tout ça, mis bout à bout, ça crée une forme de mécontentement social qui vient s'ajouter à des problèmes structurels qui sont très anciens au Tchad, mais qui ne se sont pas améliorés dans les dernières années, notamment la question des délestages et du manque d'accès à l'électricité de plus en plus difficile. J'ai trouvé des Tchadiens quand même assez inquiets dans leur vie quotidienne et voilà, qui essayaient de se débrouiller, mais qui galéraient franchement pour une bonne partie d'entre eux.
Ça veut dire que cette présidentielle, ils l'attendent ou au fond finalement ça va pas changer grand chose pour eux?
Je ne sais pas si ça va changer quelque chose ou non. Moi, j'ai senti pas mal de fatalité chez les gens. Qu'est-ce qui se passe, etc. En plus, c'est vrai qu'il y avait eu cette transition qui avait ouvert quand même certaines fenêtres, on va dire, avec, il faut le dire, hein, une plus grande liberté d'expression, l'inclusion d'opposants aussi dans le système. Enfin, voilà, tout n'était pas verrouillé. Mais in fine, tout le monde se dit, le fils remplace le père et voilà. Et pour nous, la vie continue et rien ne change, quoi. Les problèmes de fond demeurent.
Je veux bien que tu me dises un mot du contexte régional, parce que je l'évoquais en introduction et ça a vraiment son importance.
Oui, c'est très important parce que le Tchad, c'est un pays qui est entouré de voisins qui ont, on va dire, des soubresauts, en particulier au Soudan. La guerre civile au Soudan va avoir un an et ça a précipité des centaines de milliers de personnes du Darfour vers le Tchad, ce qui fait qu'au total, il y a plus d'un million de Soudanais qui sont réfugiés au Tchad. C'est énorme pour un pays comme le Tchad, ça a un coût très important. Ce que le gouvernement met en avant en disant, bah, nous, on a la sécurité à assurer, on a les réfugiés à prendre en charge, tout ça coûte beaucoup d'argent, et cet argent-là, on peut pas le mettre ailleurs, et en plus, on manque un peu d'aide de l'extérieur. Il faut dire que la crise au Soudan, elle est quand même assez oubliée, elle a été reléguée au second plan entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le conflit à Gaza. On voit bien que c'est pas une priorité de l'agenda international, mais toujours est-il qu'il y a ce million de personnes qui est là près de la frontière, qu'il faut les prendre en charge, que les humanitaires sont débordés et que les structures de l'État tchadien, elles tiennent, mais c'est très compliqué et ça a un coût important. Donc la question de la stabilité, elle est centrale dans le discours officiel.
J'élargis encore, puisque tu parlais de l'international. Il va y avoir aussi, durant cette mission de reportage, décidément, pendant ton séjour, la visite de Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel, c'est l'envoyé spécial, alors c'est le titre officiel, l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique. Il arrive sur place dans ce contexte et ça a fait quand même beaucoup parler.
Oui, puisque donc la France est l'ancienne puissance coloniale au Tchad. Il y a une présence militaire quasi continue depuis l'indépendance. C'était le quartier général de l'opération anti-djihadiste Barkhane. La France est quand même plusieurs fois venue en aide à Idriss Déby pour l'aider contre différentes rébellions. Elle a cautionné l'installation de son fils. On rappelle qu'Emmanuel Macron s'était rendu aux funérailles, donc tout le monde avait vu ça comme un soutien explicite, même si après il avait dit qu'il n'était pas là pour soutenir une transition dynastique. Mais quoi qu'il advienne, au Tchad, tout le monde cherche toujours ce que va dire la France. On prête à la France toutes les intentions diverses et variées.
Elle a un rôle particulier, la France ?
Elle a un rôle particulier, forcément, même si c'est de moins en moins vrai, et même si c'est une bonne excuse pour un certain nombre de gens pour minorer les responsabilités des acteurs locaux. Mais c'est vrai que Jean-Marie Bockel, qui arrive là 10 jours après la mort de Yahya Diallo, dans des conditions très, très discutées, on va dire, et qui fait part de son admiration pour la transition et qui dit que la France va rester militairement. Il y a un certain nombre de gens pour qui ça a été assez frustrant et même agaçant d'entendre ça et qui ont noté, on va dire, dans le meilleur des cas, poliment, un manque d'à-propos assez certain, pour pas dire plus.
Bon, pour toi, en tout cas, ça va faire 12 jours assez riches, assez denses. Comment tu analyses cette expérience de terrain par rapport à... D'ordinaire, tu suis tous ces dossiers, évidemment, pour RFI, mais de Paris, même si c'était pas la première fois que tu te rendais à N'Djamena, ça avait une saveur différente des missions précédentes ?
Là, on rentre vraiment dans la période, on va dire, d'ébullition préélectorale. Ça m'a permis de quand même faire un peu le tour des acteurs et de voir dans quel état d'esprit ils étaient alors qu'on arrive vers les élections, la manière dont ils appréhendent ce cycle électoral, sa transparence, cette situation probablement qui n'a jamais été vue peut-être sur le continent africain, d'avoir un président et son premier ministre qui vont être en face à face pour les élections, entre ceux qui disent que la candidature de Succès Masra, c'est une candidature d'accompagnement, de faire valoir, et ceux qui pensent qu'il y a vraiment une chance d'amener à une transformation du pays. Donc c'était bien de voir tous ces gens-là, de discuter un peu plus avec eux et d'être dans ce contexte-là, quoi.
Merci beaucoup, François, d'être venu me raconter tout ça dans Témoin d'actu.
Merci, Alexandra.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas, vous le savez désormais, à le partager. Cela donne encore plus de visibilité à Témoin d'actu. À très vite.